Sur RCN, Christophe Chevardet.
Madame, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bienvenue dans I Feel Good. C'est 30 minutes pour profiter des ondes positives de mon invité, 30 minutes pour aller à la rencontre d'un homme, cette fois-ci encore, fortement engagé dans le boulot. C'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. Puis aussi de veiller à un équilibre de vie. Madame, mesdemoiselles, messieurs, il ne manque pas d'énergie. Jean-Baptiste Arnoux, elle était facile. Ultra facile. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Christophe.
On l'a fait à chaque fois. Tu es. Alors donne tes fonctions.
Alors je suis directeur des relations externes Grand Est et Meurthe-et-Moselle pour Enedis. Enedis, c'est pour ça que la blague sur l'énergie était bienvenue. Ouais. C'est le distributeur d'électricité sur le territoire, 95% du territoire français et à peu près le même pourcentage en Lorraine.
On se redresse un tout petit peu le cadre. Heureusement que tu as de l'énergie parce que moi, j'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui. On se redresse un tout petit peu le cadre et puis on balaye les sigles parce qu'on s'y perd un petit peu. EDF, ERDF, GRDF, Enedis, c'est qui tout ça?
Alors, EDF, énergéticien historique, je dirais, en France, qui est présent depuis la reconstruction à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, voulu pour le général de Gaulle, 1946. Et ERDF est une émanation d'EDF en 2008 à la suite de l'ouverture à la concurrence des marchés d'électricité. Aujourd'hui, tu sais que chaque client peut aller vers le fournisseur d'énergie qu'il souhaite, ce qui n'était pas le cas avant puisque chaque client était chez EDF. Et donc, création d'ERDF à ce moment-là puisqu'on s'est filialisé par rapport à EDF. Et notre boulot à l'époque à ERDF, c'est toujours le même aujourd'hui pour Enedis, c'est d'assurer l'entretien du réseau électrique pour permettre à chaque Français d'avoir du courant chaque soir et que quand on appuie sur l'interrupteur, la lumière s'allume.
Donc l'ERDF est devenu
Enedis.
Vous êtes le transporteur de l'électricité en France.
Le distributeur. C'est une nuance. Le transporteur, c'est RTE, qui est sur les grandes autoroutes. C'est des très gros pylônes que l'on peut voir métalliques dans les champs. On va faire comme ça. Et puis nous, Enedis, on est à l'intersection, un petit peu après. C'est les routes nationales et les départementales, puisqu'on va... De la frontière, c'est les postes sources, comme on en a par exemple à l'Axou, tu sais, les grands postes à l'entrée. Et ensuite, on descend jusque chez le client avec le compteur électrique.
Donc c'est les routes nationales départementales et les chemins vicinaux aussi, ça va jusqu'au bout du bout du bout.
Tout à fait, jusqu'au bout du bout du bout.
Et c'est en ça que vous êtes un service public ?
Exactement, c'est en ça qu'on est un service public. Notre mission de service public, c'est d'assurer à tous les clients, à tous les Français, une électricité de qualité. On le fait plutôt pas mal, puisqu'aujourd'hui, les clients ont 99,999% du temps du courant. Et donc, on y travaille et nos agents, au quotidien, sont très, très engagés sur le terrain. Je pense notamment avec ce qui vient de se passer à Mayotte. Aujourd'hui, on a 50 techniciens sur place. Certains même qui ont passé les fêtes de Noël et les fêtes de Nouvel An à Mayotte, loin de leur famille, pour aider les Mayotais, les Mahorais, pardon, pour être précis, à avoir de l'énergie très rapidement.
Juste, alors si on rentre un tout petit peu dans le détail, je ne vois pas bien l'intérêt d'avoir séparé RTE de Enedis. Pourquoi vous n'avez pas pris les autoroutes aussi?
Alors parce que le transport, c'est autre chose. La petite différence entre le transport et la distribution, c'est que les réseaux de transport appartiennent à RTE. Et les réseaux de distribution n'appartiennent pas à Enedis, mais ils appartiennent aux communes. Et donc, malgré tout, ce n'est pas le même contrat. Il y a un contrat de concession avec les communes pour Enedis. Plus précisément avec les syndicats, puisque les communes se sont regroupées pour qu'un syndicat départemental sur la Meurthe-et-Moselle, c'est le SDE 54, syndicat d'électricité du 54, et la métropole du Grand Nancy. Chacun a cette compétence, alors que RTE...
Et donc il la concède.
Il le concède à Enedis, dans le cadre d'un contrat de concession, aujourd'hui renouvelé pour 25 ans. Et donc on assure, c'est un peu particulier, puisqu'en fait on investit sur un bien qui ne nous appartient pas. Et donc ça, c'est important. Et c'est la vraie différence. Et puis, entre nous, c'est quand même deux vrais métiers très différents. Même si ça peut paraître proche pour le commun des mortels, les activités sont très différentes. Les compétences des techniciens ne sont pas les mêmes. Il y a des parcours qui se font interfiliales, mais le transport a toujours été indépendant. Exactement. Mais le transport a toujours été indépendant.
Mais la gestion des flux pour avoir visité RTE, c'est impressionnant.
C'est un vrai métier.
Parce que ça se calcule... H24.
En temps réel.
En temps réel.
Il gère l'équilibre du réseau en temps réel.
parce que ce fameux réseau ne tombe pas.
Exactement. Le risque, c'est que s'il y a une trop grosse forte consommation ou à l'inverse beaucoup trop de production par rapport à la consommation, ça s'écrase. C'est ce qu'on appelle un blackout. Et donc là, tu as des poches entières de clients qui seraient dans le noir. Et sur un temps assez conséquent. Donc,
les hôpitaux,
les infrastructures de transport, les urgences. Et donc, nous, RTE, nous passe des consignes. Voilà. Et donc, nous demande d'agir sur le réseau pour gérer cet équilibre par du stockage, par du délestage. On a des contrats avec des clients. Voilà. C'est très fin.
Allez, on fait une dernière petite question technique.
Oui.
Mais alors, si c'est une concession, les collectivités pourraient vous donner la concession à quelqu'un d'autre ?
Et non, c'est ça la particularité, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas possible.
D'accord.
Aujourd'hui, la loi ne permet pas de confier à quelqu'un d'autre qu'Enedis la concession d'électricité.
Ok, allez, c'était pour bien comprendre les enjeux de propriété des biens et tout ça.
D'accord. Tu fais bien, c'est important.
Merci Jean-Baptiste pour cette explication. Mais dites donc, dans les dates importantes dans votre vie, c'est rigolo, mais il y en a une qui concerne justement votre entrée dans cette grande maison, c'est le 1er novembre, pour un jour d'entrée c'est pas mal, 1er novembre 2009.
C'est ça. Alors effectivement tu as raison d'insister, c'est une particularité, c'est que j'étais embauché un jour férié.
Ouais. L'amour du travail.
Exactement, alors à l'époque, je parle comme un vieux, ça fait à peine 15 ans, mais à l'époque c'était comme ça chez EDF, au sein du groupe EDF et chez Enedis, on embauchait le premier du mois. Quel qu'il soit, donc 1er novembre pour moi, mais il y en a qui ont été obligés aussi le 1er mai.
Alors cette date importante du 1er novembre, elle vient d'où ? Elle vient de comment on en arrive là ? Comment Jean-Baptiste a fait le choix de cette grande maison ?
J'ai fait le choix de cette grande maison, d'abord parce que j'ai eu un grand-père qui a travaillé très longuement et qui m'en avait vanté les mérites. Et donc, pendant ma formation scolaire, j'ai cherché un stage en entreprise, je me suis assez naturellement orienté, à l'époque c'était encore EDF. Et donc, si tu veux, j'ai réussi à faire un stage à l'époque de mon DUT, j'ai fait un stage ici même à Nancy, au sein d'EDF Nancy-Lorraine à l'époque, qui m'a beaucoup plu avec un maître de stage exceptionnel. Et quand...
On peut donner les noms.
On peut donner les noms. Philippe Leblanc, s'il se reconnaîtra, voilà, qui était assez exceptionnel. Et donc, quand j'ai poursuivi mes études, j'ai fait un Master 2 en alternance. Et je me suis retourné vers cette personne en disant « Est-ce que vous avez encore la possibilité de me prendre ?» Il m'a pris une année complète. Et donc là, j'étais à Metz, où j'ai fait mon alternance, c'est un stage long à l'époque, j'ai fait l'IAE à Nancy. Et à l'issue de ce stage, lui a changé de boulot, il est parti en Normandie. Et il m'a appelé, peut-être un mois après être arrivé, en me disant « Mais est-ce que ça t'intéresse ? Je peux t'embaucher à Évreux en tant qu'adjoint RH. » Écoute, je me suis tourné vers mon épouse, je lui ai dit « Ça t'intéresse ?» Elle me dit « Bon, pourquoi pas, on va goûter à la Normandie. » En réalité, Évreux, quand il arrive, c'est plutôt la région parisienne. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à être embauché à Enedis, à l'époque ERDF, à Évreux, en tant qu'adjoint RH.
Donc, deux choses importantes dans ce que tu viens de nous dire. Déjà, il y a une gestion familiale de la chose, de la carrière. On va en parler dans fin d'émission. Mais il y a une deuxième chose, c'est que tu dis RH. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs métiers possibles.
Il y a plusieurs métiers possibles à Enedis. C'est aussi la force et la particularité de l'entreprise. En 15 ans, j'ai dû faire à peu près 6 à 7 métiers différents, et même très différents les uns des autres, puisque donc, j'ai été embauché en tant qu'adjoint RH pendant deux grosses années et demie. Et puis, j'ai déménagé en Picardie, à Amiens, pour être précis, en tant que directeur de cabinet d'un directeur régional. Métier que je ne connaissais pas auparavant. Très important, là j'ai découvert notamment j'ai pris beaucoup de hauteur sur la stratégie d'une entreprise, d'une unité, sur la communication à l'interne et externe. J'ai aussi géré des interfaces avec des clients, ce que j'avais jamais fait auparavant. Donc plutôt tourné vers un bon fonctionnement des instances de gouvernance, les comités de direction, l'encadrement managérial, et puis tourné aussi vers l'externe où j'accompagnais notamment mes homologues actuels sur de la communication externe. J'ai fait ça pendant 3 grosses années, et puis ensuite, c'était au moment du déploiement des compteurs Linky. Tu sais, les fameux compteurs qu'on fait...
Sujet.
Qui continuent parfois à faire un peu polémique. Et on m'a proposé de piloter ce déploiement. Donc, j'ai pris avec moi une équipe de 15 personnes. On a rencontré des entreprises prestataires, et puis on est allé avec eux déployer ces compteurs avec une belle réussite. Des réunions publiques, voilà, pour expliquer l'intérêt. Donc, ça, c'était en Picardie. Et puis, on m'a confié aussi à un moment donné toute la partie clientèle. Donc, je suis passé chef de service clientèle. En interne, on dirait adjoint directeur, en charge de tout le domaine clientèle. Donc, j'ai géré les interfaces.
Ça fait plusieurs fois que tu parles de clients. Qui sont les clients des 10 alors? Parce que c'est le client final ou...
C'est le client final, exactement. Le client des 10. Alors, ils sont multiples. Tu as le client particulier, tout à chacun, puisque...
Et nous, on paye notre facture
à un fournisseur. Exactement, à un fournisseur. Mais qui achemine l'électron jusque chez toi, c'est Enedis. Et donc, un client qui souhaite construire une maison, qui souhaite intégrer un logement, il fait une demande. Cette demande, il passe par un fournisseur, mais in fine, c'est Enedis qui la réalise. Et donc, on a bien cette interface client. Et c'est ça, moi, que j'ai piloté en Picardie, où j'avais 45 personnes dédiées à la relation client, donc à l'accueil, et à la réalisation de ces interventions en interface avec les fournisseurs. Je te parle des particuliers, mais on pourrait parler des petits entrepreneurs, des industriels, des collectivités, voilà. Ce sont tous nos clients.
Et c'est ça qui te rend heureux, parce que, on peut le dire, je crois que tu es heureux d'être dans ta boîte.
Ah oui, clairement.
C'est cette grande diversité des fonctions et cette possibilité de faire des sacrés sauts. C'est pas des sauts de puce pour les métiers, c'est quand même...
C'est des sauts très importants.
C'est des sauts très importants en termes de compétences et de savoir-faire.
De compétences, de savoir-faire, de management aussi. À l'issue, tu vois, de ce métier, c'est comme ça que je suis arrivé à Nancy et j'ai pris en charge les équipes intervention. Donc les équipes intervention, c'est les techniciens en bleu là, que vous voyez intervenir sur le terrain, chez les clients pour intervenir sur l'installation électrique, côté Enedis bien évidemment, mais aussi sur le réseau et notamment quand il y a les tempêtes. Hein, c'est ces gens-là qu'on voit. Et là, pour le coup, moi, j'avais aucune compétence technique sur le sujet. J'ai eu un super directeur à Amiens qui m'a payé et financé une formation pour découvrir le métier. Et donc, j'ai passé 3 semaines avec les techniciens. Je ne voulais surtout pas faire la formation dédiée aux managers. J'ai fait la formation avec les techniciens. J'ai mis une paire de bottes, un bleu. Et je suis monté sur le réseau pour apprendre les gestes.
Vie ma vie.
Et vie ma vie, exactement. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour comprendre les gens que d'avoir fait. Et ça donne en plus une certaine crédibilité. Alors... Pour être clair, quand je suis arrivé à la formation, les types se sont un peu moqués de moi.
Normal, bisut, ouais, tout va bien.
Bisu. Sauf que ce qu'ils n'avaient pas comme information, c'est que je suis fils d'agriculteur. Et que par exemple, planter un piquet de terre pour mettre à la terre le réseau, ça ne me faisait pas peur parce que j'ai planté des piquets de parc dans ma jeunesse avec la masse.
Un peu plus qu'eux.
Voilà. Et donc, au premier coup de masse, j'ai vu tout de suite dans leur regard que leur vision avait changé.
On va en parler de ces piquets plantés, de cet appel de la terre dans quelques instants. Juste avant la pause musicale qui peut surprendre dans quelques instants, un souvenir, un moment fort, tu es jeune, donc il y a un moment fort de la vie Enedis dans ces 15 ans de métier.
Le moment le plus fort, je dirais, c'est quand je suis parti avec 20 techniciens prêter main forte au sud-ouest, parce qu'il y avait une grosse tempête qui avait ravagé le territoire et le réseau, qui avait mis le réseau électrique à terre. Et donc, je suis parti avec 20 techniciens. On a pris la route là, un soir et on est descendu jusque Bordeaux, puis jusque Pau. Et on a vécu 7 jours d'enfer. Mais c'est toujours exceptionnel parce qu'on a des gars qui sont investis, qui sont engagés et on était là avec un seul objectif, c'était réalimenter au plus vite les clients pour remettre le courant. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever?
C'est rare d'écouter une chanson en entier dans I Feel Good, c'est parce que c'était Alphaville.
I Feel Good sur RCN, Christophe Chevardet.
Alors là, je ne m'attendais pas du tout à ce choix, Jean-Baptiste, ce n'est pas du tout ta génération. La musique est super, mais c'est la nôtre, celle de Jean-Luc le technicien et la mienne. Pourquoi ce choix?
Pourquoi ce choix? Alors je veux dire, quand j'ai préparé, j'ai posé la question à mes enfants, qu'est-ce qui me caractérise comme musique? Alors, ils m'ont sorti tous un certain nombre de blagues. Et puis, finalement, quand on a remonté la playlist Spotify, on peut citer des marques.
Oui, on va s'arrêter. Hein.
Sur laquelle qu'on partage, on a retrouvé celle-ci. Et en fait, je trouve qu'elle me caractérise bien. Alors, d'abord, parce que j'ai chanté très longtemps. C'est mes parents qui me l'ont fait écouter, bien évidemment. Et il est important de rester jeune. Voilà. Et donc, j'aime bien le fond de cette musique. Et puis j'aime bien aussi l'air, donc voilà, c'est quelque chose qu'on écoute régulièrement avec les enfants.
Alors c'est pour ça qu'on a le plaisir aussi d'accueillir Thibaut qui est en stage de 3e et qui pourra poser des questions s'il voit un moment ou un autre. Il a envie de poser une question, et bien tu es le bienvenu Thibaut pour poser ta question à Jean-Baptiste. On poursuit après ce 1er novembre 2009 qui a fait une marque de ton entrée dans cette grande entreprise Enedis. On arrive à deux dates plus perso. Mais qui sont des chemins qui prennent racine, on va dire.
C'est ça.
On va commencer peut-être par la plus difficile, ou en tout cas celle qui marque une véritable transition, le 11 décembre 2020, c'est le décès d'un grand-père.
C'est ça.
Et comment se fait-il qu'une date de décès puisse être une date aussi importante dans ta vie ?
C'est une date importante parce que d'abord j'ai grandi avec mon grand-père. C'était un personnage très fort, avec un très fort charisme. C'est quelqu'un très jeune que j'ai pris comme modèle, à double titre, à la fois dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. Et c'était quelqu'un qui structurait dans la famille. Et donc son décès marque finalement plusieurs choses. D'abord, il est parti à l'hôpital le jour de l'anniversaire de ma fille, quelques jours auparavant. Donc c'est aussi un moment marquant dont elle d'ailleurs se souvient fort bien alors que elle était encore jeune. Et pour moi, ça marque aussi un peu la fin de l'enfance, tu vois, un peu la fin de l'insouciance finalement. Mon père est toujours là, mes parents sont toujours là, mais ça marque quelque chose. Et donc c'était vraiment un modèle, d'abord parce que c'était quelqu'un d'une extrême bonté, une extrême gentillesse, une extrême intelligence aussi. Beaucoup de...
Un modèle.
Ouais, un vrai modèle.
Alors un modèle en quoi ?
Alors un modèle, si je commence par la partie pro, c'est un modèle parce qu'il a travaillé chez EDF. C'est lui qui m'a beaucoup promu l'entreprise, Si tu veux, il nous disait toujours, moi je me suis jamais ennuyé au cours de ma carrière chez EDF. Il avait fait beaucoup de déménagements, beaucoup de métiers différents. Et je me suis dit, tiens, ça mérite de s'y pencher. Je suis quelqu'un qui a envie de découvrir beaucoup et régulièrement de nouvelles choses. Et je me suis dit que Enedis pouvait être le bon vecteur pour ça. Et donc c'est un modèle en ce sens que je dirais que j'ai un peu basé mon ambition de carrière sur ce que lui a fait. C'est-à-dire que je me suis fixé comme ambition de faire au moins aussi bien. Ce qui n'est pas évident parce que autre temps, autre mœurs, autres ambitions, autres organisations.
On est d'accord, hein, y a des différences. Pourtant, le monde a changé, le monde change.
Exactement.
Comment on peut faire un parallélisme sans être dans un duplicata qui ne peut pas exister ?
Ça ne peut pas exister, mais lui était d'une extrême modernité. C'est-à-dire qu'il s'adaptait au temps en permanence. Il avait toujours ce petit coup d'avance.
Donc ça veut dire que ça renvoie par rapport à des valeurs, renvoie par rapport à...
Exactement. Beaucoup d'élégance dans l'approche, le respect des gens, l'intérêt porté aux gens, l'intérêt porté aussi à l'intérêt commun. Il était très engagé par ailleurs. Il était membre de l'IHEDN, c'est l'Institut d'études de défense nationale, qui ne parle pas forcément à tout le monde, mais qui permet de faire le lien entre l'armée, les civils, l'État, les collectivités. Donc très engagé sur ces sujets pour le bien commun, pour les autres.
Alors je tiens à dire que je ne le savais pas. Ayant fait l'IHEDN, on peut dire que je fais de la promo, mais c'était pas le but. Voilà. Mais effectivement, c'est vachement bien.
C'est super. Moi, je suis membre aussi de l'IHEDN depuis plusieurs années. J'avais fait le stage jeune à l'époque. Et donc, si tu veux, c'est en ça que c'est un modèle. C'est quelqu'un qui a toujours voulu faire avancer les choses pour le bien des autres. Voilà. Et donc, ça peut paraître désuet. Ça peut paraître effectivement un peu ringard. Mais aujourd'hui, la mission pour laquelle lui a travaillé chez EDF et la mission pour laquelle moi je travaille aujourd'hui, c'est toujours la même. C'est celle de donner l'électricité à tous, quoi. Permettre le développement.
Alors, c'est un peu ringard, mais on peut le faire vivre aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui. Je ne parle pas forcément d'Enedis, ayant un regard sur la société peut-être plus. Est-ce qu'on peut encore, tu crois, le faire vivre aujourd'hui dans son travail ?
Oui. Moi, je pense que oui. Je suis pleinement convaincu. Pour avancer, il faut connaître son passé. Être ancré, avoir les pieds sur terre, là. Je suis fils d'agriculteur, donc les pieds dans la terre, avec une projection, et je pars du principe que quand on connaît bien son passé, on arrive bien à se projeter et à imaginer de nouveaux futurs.
Alors justement, cette histoire-là qui marque ton parcours et aussi ton avenir, c'est aussi autour de l'agriculture.
Oui. Oui, tout à fait.
La Meuse. Allez, on n'en parle pas assez souvent de la Meuse.
Très beau département. Moi, j'ai grandi en plus dans un village de 70 habitants à côté de Ligny-en-Barrois, là, Nant-le-Grand. Mes parents, ils sont toujours. Et j'ai grandi avec mon père.
C'est pas une alarme Enedis, hein, je rassure tout le monde.
Non.
Pardon.
On amène du courant, il n'y a pas de souci.
Ouais, c'est ça.
Ça arrive rarement. Non, j'ai grandi auprès de mon père. J'ai passé ma jeunesse auprès de mon père, en botte, dans les tracteurs. Et donc, c'est vrai que pendant très, très, très longtemps, je pensais que j'allais être agriculteur. Et j'avais envie d'être agriculteur. Maintenant, mon père m'a toujours dit, ouvre-toi à autre chose. Lui-même n'était pas de formation agricole. Il a eu une formation agricole pour reprendre l'exploitation, mais il est géomètre expert à la base. Et donc, il nous avait toujours dit, et à mes frères et sœurs, il a toujours dit ça, voyez autre chose avant. Donc, j'ai vu autre chose. Et là, je me suis laissé influencer, clairement, par mon grand-père. Les ressources humaines, découvrir d'autres choses. Et je ne suis jamais revenu, finalement. Mon frère a repris l'exploitation agricole. Aujourd'hui, elle perdure, il est très investi. Il est très investi aussi dans la politique agricole, puisqu'il est élu à la Chambre d'agriculture de la Meuse.
Voilà, il y a de l'actualité en ce moment.
Il y a de l'actualité, exactement. C'est en ce moment, les élections.
Les élections, c'est demain, je crois.
C'est demain, exactement. Voilà, donc... Et dans un coin de ma tête, je t'avoue que très régulièrement, je me dis, mais je vais revenir à cette terre, je vais revenir à l'agriculture, parce que ça ne m'a jamais quitté. Et dans le métier d'aujourd'hui, avec Enedis, et notamment avec le développement des ENR, enfin des énergies nouvelles renouvelables,
C'est-à-dire qu'on voit effectivement dans l'agriculture effectivement tous ces panneaux photovoltaïques fleurir. On voit aussi toutes ces éoliennes aussi fleurir. Donc tout ça pose des questions quand même aussi au monde agricole.
Ça pose de très grosses questions au monde agricole, avec des visions parfois un peu divergentes au sein même du monde agricole. Mais je crois qu'il y a des choses qui font consensus, c'est de dire que la profession agricole doit d'abord pouvoir vivre du revenu de sa terre, de son travail. Et puis si elle peut effectivement permettre aussi et concourir au mix énergétique et à la stratégie française sur le développement des ENR, elle le fera et en train, ce qu'elle a toujours réussi à faire.
Ça veut dire que ce pas de côté un jour, c'est pas impossible de le faire et d'aller faire un tour dans le monde de l'agriculture.
Oui, c'est pas improbable. Alors aujourd'hui, moi, je suis pleinement engagé chez Nice, et avec des perspectives de parcours, comme je l'ai expliqué, diversifiées et variées, qui sont incroyables. Et c'est aussi l'avantage et l'intérêt de notre entreprise, c'est qu'elle permet un certain nombre de choses. Mais j'avoue qu'au fond de mon cœur, là, c'est plutôt le cœur qui parle. De se dire, c'était quand même pas mal l'agriculture.
Si un jour il y a un poste NR, ruralité, du côté des Médis, il pourrait y avoir un candidat.
C'est ça, un très grand candidat.
Donc, deuxième date importante, on l'a vu, ce grand-père qui a marqué, qui a en même temps donné de l'énergie et de l'envie d'avancer. Quoi. Voilà,
c'est exactement. Ça.
Et puis on arrive à la troisième date importante dans ta vie, c'est une date plus personnelle, bien sûr.
C'est une date plus personnelle, mais plus personnelle et à la fois très structurante. Donc c'est le 21 mars 2002, c'était une belle journée de printemps.
Printemps.
Et finalement, c'est le début de l'histoire que je vis aujourd'hui encore avec mon épouse. Jeune lycéen.
Ah oui,
oui, à peine.
Donc dans la Meuse alors ?
Dans la Meuse, à Bar-le-Duc.
À
Bar-le-Duc, voilà. Entre 16 et 17 ans, là, dans la fleur de l'âge, où tu vis tes petites amourettes.
Hein,
et puis en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que c'était relativement sérieux et que c'était une belle personne avec qui j'avais envie d'aller un peu plus loin. Elle m'a apporté aussi beaucoup de choses. Enfin, elle m'apporte toujours d'ailleurs encore beaucoup de choses aujourd'hui, mais surtout la rigueur. J'étais quelqu'un de très ambitieux, si tu veux. À l'époque, je faisais beaucoup de foot. J'avais envie de percer dans le foot.
Ça intéresse Thibaut, notre stagiaire. Enfin, ça te plaît le foot, hein.
Les aléas de la vie font que je me suis cassé une vertèbre, donc tout de suite
ça permet de redire,
il y a d'autres orientations, et puis très certainement que j'avais pas le potentiel, si on regarde avec les yeux d'aujourd'hui, il faut être très clair, j'avais pas forcément le potentiel d'être ni Kylian Mbappé, ni je sais pas qui, donc je me suis orienté vers d'autres choses, mais c'est parce que je l'ai rencontré, qu'elle était à mes côtés, qu'elle m'a apporté cette rigueur, que je suis là où je suis aujourd'hui. Voilà. Au-delà de ça, elle suit aussi dans les déménagements, parce que
j'allais y venir. Il y a un chemin de couple dans ce que vous avez construit, et puis il y a aussi un chemin de couple parce que tu as induit de par tes responsabilités.
Exactement. La particularité du groupe EDF et d'Enedis en particulier, c'est de demander à ses cadres un petit peu de mobilité. Mobilité fonctionnelle, et un petit peu de mobilité géographique. On est parti, on était tous les deux meusiens, et après nos études, là, où qu'on a fait, moi en partie à Metz, mais qu'on a fini à Nancy tous les deux, on s'est retrouvés à Évreux, loin de nos familles respectives. Et quand t'as 24-25 ans, c'est un vrai départ. Donc tu comptes sur toi. Et quand tu comptes sur toi, c'est tu comptes sur ton épouse et toi. Et donc, on s'est construit tous les deux.
On compte sur nous, alors.
On compte sur nous. Exactement, on compte sur nous. Et toutes nos 15 dernières années, on a coûté rien que sur nous, pour s'occuper de nos enfants, élever nos enfants. Mon épouse, elle accepte aussi les contraintes liées à mon métier, la disponibilité ou l'indisponibilité plutôt. Tu vois, ce matin, on avait un enfant malade, 42 fièvres. Je venais là, j'ai des rendez-vous cet après-midi, j'en avais déjà ce matin. Je la remercie de s'occuper des enfants aujourd'hui et de les éduquer, parce que je ne suis pas toujours dispo, quoi.
Allez, on en profite, on fait un petit clin d'œil aux 5 enfants, 5 prénoms.
Ouais, 5 enfants, donc l'aîné, Louison, qui est en seconde, Léontine, Gaston, Paulin et Baptistin.
Voilà. On voulait réviser s'ils savaient bien les 5 prénoms quand même. Non, ça va, merci d'être venu nous raconter ta passion professionnelle qui trouve ses racines bien ailleurs et nous avoir aussi partagé les racines.
Merci à toi, Christophe.
Belle continuation.